Compréhension de l'oral, niveau fondamental. Sujet numéro 1. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
18h52, c'est la rentrée pour le Forum des idées, une rentrée robotique avec vous, Jessica Rocha, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorante en psychologie, spécialiste en interaction homme-machine au sein des hôpitaux universitaires de Genève et vous travaillez sur un robot social qui s'appelle Mistil pour accompagner le personnel soignant et les proches aidants dans leur quotidien avec les aînés. Alors, Jessica Rocha, il fait quoi concrètement ce robot ?
Alors, concrètement, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les soins à domicile, la communication entre les différents intervenants, donc la personne qui reçoit les soins à domicile, les soignants et puis les proches aidants, et puis vraiment d'améliorer la transmission des informations.
Donc, il est là, ce robot, chez les personnes âgées, par exemple, qui reçoivent des soins à domicile. Qu'est-ce qu'il peut accomplir comme tâche ? Quel service il peut rendre ?
Alors là, il y a 3 domaines, je dirais, sur lesquels on travaille actuellement. Le premier, c'est pour tout ce qui concerne la sécurité. Et là, ce qui est intéressant avec ce robot, c'est que, par exemple, on peut lui intégrer une caméra. Donc, par exemple, il peut déjà se déplacer. Et puis, par exemple, s'il voit qu'il y a eu une chute, il peut filmer la scène et transmettre les informations quand il y a un problème.
Donc, il y a cet aspect de sécurité. Puis, oui. Il peut accomplir d'autres tâches. En fait, ses possibilités sont infinies. Il mesure quand même que 20 cm, hein, donc il ne peut pas tout faire, mais il est là.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, au niveau du développement des fonctionnalités, on peut aller très loin. Et puis, l'autre chose qu'on trouve important, c'est aussi d'aider la personne avec les tâches quotidiennes. Donc, par exemple, aider à lui rappeler de prendre ses médicaments, en fait, mais aussi ses rendez-vous. Et puis l'autre composante qui est très importante, et c'est pour ça qu'on parle d'un robot social, c'est vraiment d'apporter une présence, une compagnie, d'améliorer le bien-être de la personne et puis de l'aider par exemple dans les moments où il se sent un peu seul. Voilà.
Ouais, c'est vraiment ressenti comme une présence parce que ça reste quand même une machine. Est-ce qu'on peut vraiment créer du lien social avec une telle machine ?
Oui, alors bon, je peux comprendre que ça peut paraître paradoxal, mais je pense tout à fait. Et puis, on le fait déjà par ailleurs, par exemple avec Siri, l'assistant vocal dans les smartphones.
Dans les téléphones, ouais.
Ouais. Et puis justement, et je crois que c'est, par exemple, Siri est sympathique et a même une touche d'humour. Et je pense que c'est ça aussi, ça c'est une composante importante qu'on doit intégrer dans ces robots. Il faut qu'ils soient sympathiques et qu'on ait du plaisir à communiquer avec eux.
L'objectif, c'est quoi ? C'est de remplacer potentiellement à terme certains services qui sont effectués aujourd'hui par des humains ou c'est de compléter justement cette offre-là ?
Non, alors ça, c'est d'ailleurs très important que de le rappeler. Là, c'est pas du tout l'objectif de remplacer les tâches que font actuellement les soignants, mais justement de soutenir, d'aider. Voilà, en permettant par exemple d'alerter quand il y a un problème, mais aussi par exemple pour le suivi. Par exemple, le robot pourrait enregistrer quand la personne a effectivement pris ses médicaments, ou elle pourrait enregistrer également si la personne a eu des douleurs ou de la fièvre à tel moment. Et puis là, le personnel soignant, une fois qu'il arrive chez la personne, il peut voir justement tout un historique.
Effectivement. Aujourd'hui, vous en êtes où dans ce projet? Vous menez une enquête, je crois, auprès des personnes cibles, entre guillemets, soit les personnes âgées qui pourraient bénéficier de ce robot?
Oui, tout à fait. Donc là, en fait, on est vraiment dans un processus de recherche et développement. Donc là, on a fait une série d'entretiens, donc avec les différents utilisateurs. Et puis, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que on collabore également avec l'institution de soins à domicile à Genève, donc l'IMAD, et qui nous donne également des conseils sur quelle direction aller, puis à quoi faire attention. Et ça, c'est vraiment important de prendre en considération les vrais besoins du terrain pour justement apporter des solutions concrètes qui répondront à leurs besoins. Et puis, je pense que c'est là où, au final, ces outils seront acceptés.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
18h52, c'est la rentrée pour le Forum des idées, une rentrée robotique avec vous, Jessica Rocha, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorante en psychologie, spécialiste en interaction homme-machine au sein des hôpitaux universitaires de Genève, et vous travaillez sur un robot social qui s'appelle Mistil pour accompagner le personnel soignant et les proches aidants dans leur quotidien avec les aînés. Alors, Jessica Rocha, il fait quoi concrètement ce robot ?
Alors, concrètement, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les soins à domicile, la communication entre les différents intervenants, donc la personne qui reçoit les soins à domicile, les soignants et puis les proches aidants, et puis vraiment d'améliorer la transmission des informations.
Donc, il est là, ce robot, chez les personnes âgées, par exemple, qui reçoivent des soins à domicile. Qu'est-ce qu'il peut accomplir comme tâche? Quel service il peut rendre?
Alors là, il y a trois domaines, je dirais, sur lesquels on travaille actuellement. Le premier, c'est pour tout ce qui concerne la sécurité. Et là, ce qui est intéressant avec ce robot, c'est que, par exemple, on peut lui intégrer une caméra. Donc, par exemple, il peut déjà se déplacer. Et puis, par exemple, s'il voit qu'il y a eu une chute, il peut filmer la scène et transmettre les informations quand il y a un problème.
Donc, il y a cet aspect de sécurité. Puis, oui, il peut accomplir d'autres tâches. En fait, ses possibilités sont infinies. Il mesure quand même que 20 cm, hein, donc il ne peut pas tout faire, mais il est là.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, au niveau du développement des fonctionnalités, on peut aller très loin. Et puis, l'autre chose qu'on trouve important, c'est aussi d'aider la personne avec les tâches quotidiennes. Donc, par exemple, aider à lui rappeler de prendre ses médicaments, en fait, mais aussi ses rendez-vous. Et puis l'autre composante qui est très importante, et c'est pour ça qu'on parle d'un robot social, c'est vraiment d'apporter une présence, une compagnie, d'améliorer le bien-être de la personne et puis de l'aider par exemple dans les moments où il se sent un peu seul. Voilà.
Ouais, c'est vraiment ressenti comme une présence parce que ça reste quand même une machine. Est-ce qu'on peut vraiment créer du lien social avec une telle machine ?
Oui, alors bon, je peux comprendre que ça peut paraître paradoxal, mais je pense tout à fait. Et puis, on le fait déjà par ailleurs, par exemple avec Siri, l'assistant vocal dans les smartphones.
Dans les téléphones, ouais.
Ouais. Et puis justement, et je crois que c'est Par exemple, Siri est sympathique et a même une touche d'humour. Et je pense que c'est ça aussi, ça c'est une composante importante qu'on doit intégrer dans ces robots. Il faut qu'ils soient sympathiques et qu'on ait du plaisir à communiquer avec eux.
L'objectif, c'est quoi? C'est de remplacer potentiellement à terme certains services qui sont effectués aujourd'hui par des humains ou c'est de compléter justement cette offre-là?
Non, alors ça, c'est d'ailleurs très important de le rappeler. Là, c'est pas du tout l'objectif de remplacer les tâches que font actuellement les soignants, mais justement de soutenir, d'aider. Voilà, en permettant par exemple d'alerter quand il y a un problème, mais aussi par exemple pour le suivi. Par exemple, le robot pourrait enregistrer quand la personne a effectivement pris ses médicaments, ou elle pourrait enregistrer également si la personne a eu des douleurs ou de la fièvre à tel moment. Et puis là, le personnel soignant, une fois qu'il arrive chez la personne, il peut voir justement tout un historique.
Effectivement. Aujourd'hui, vous en êtes où dans ce projet? Vous menez une enquête, je crois, auprès des personnes cibles, entre guillemets, soit les personnes âgées qui pourraient bénéficier de ce robot?
Oui, tout à fait. Donc là, en fait, on est vraiment dans un processus de recherche et développement. Donc là, on a fait une série d'entretiens, donc avec les différents utilisateurs. Et puis, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que on collabore également avec l'institution de soins à domicile à Genève, donc l'IMAD, et qui nous donne également des conseils sur quelle direction aller, puis à quoi faire attention. Et ça, c'est vraiment important de prendre en considération les vrais besoins du terrain pour justement apporter des solutions concrètes qui répondront à leurs besoins. Et puis, je pense que c'est là où, au final, ces outils seront acceptés.
Sujet numéro 2. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes.
Sujet numéro 2, document sonore,
Première écoute.
Tu es au studio ou tu es chez toi là ?
Alors là, je suis depuis la maison.
Et tu travailles souvent depuis la maison, c'est...
Ah, c'est régulier, en fait. Paris est une grande ville et je vis au nord de Paris et le studio est au sud-est. Donc je mets à peu près 45 minutes porte à porte pour y aller. Donc effectivement, quand il y a aussi des questions parfois d'interview, hein, des interviews qui sont plus à faire au nord de Paris, donc je vais travailler après depuis la maison. Si c'est plus à l'est, je vais travailler depuis le studio. Ça dépend un peu des jours. En fait, je peux un peu faire un peu comme je veux. En fait, c'est une des joies du poste de correspondant.
La liberté du correspondant.
Oui.
Parle-nous un peu de ce studio, parce que alors il est au 133 de l'avenue Félix Faure, dans le 15e arrondissement. Oui. C'est pas très loin de la Tour Eiffel, pour le situer à peu près dans cette grande ville qui est Paris. Il envoie défiler du monde ce studio.
Oui, donc on a un studio qui permet d'accueillir à peu près 4 personnes. On a une petite cabine aussi. Moi, j'ai mon bureau donc dans ce studio. Il y a aussi le correspondant de la SRF qu'elle a avec nous, Daniel. Et puis, effectivement, il envoie défiler du monde, hein, du beau monde même, parce que, comme vous le savez, sur notre antenne, on accueille parfois même des stars, on accueille des écrivains, on accueille des comédiens, des metteurs en scène. Tous ces gens viennent au studio. Et puis, alors, ce qui est très chouette, c'est qu'il faut imaginer, c'est pas du tout un studio comme à Radio France, avec des gros moyens, des immenses espaces. C'est un petit studio qui se trouve dans un appartement. Et donc, depuis que Alexandre Lemierre, le maître des lieux, donc c'est lui qui habite un peu ces lieux, c'est sa grand-maman d'ailleurs qui tenait le studio avant lui, donc c'est quasiment une histoire de famille, hein, ce studio, ça fait 30 ans qu'il appartient à la radio. C'est un petit appartement mais qui est très chaleureux et les invités adorent venir nous voir. Déjà parce qu'on est sympa, ça c'est une première chose.
Oui.
Et puis aussi, évidemment. Et puis aussi parce que justement ils se retrouvent dans une ambiance en fait qui est très détendue par rapport à ce dont ils ont l'habitude avec les médias français. C'est vraiment très sympa, quoi.
Souvent les gens disent que Paris, c'est sympa pour les vacances, mais c'est une ville qui fatigue aussi. Toi non, ça te fatigue pas, tu le sens pas comme ça.
Alors, je pense que pour l'instant, j'ai l'énergie qui convient pour être dans cette ville. C'est effectivement Paris, c'est une ville où il faut pas être malade, il faut pas être pas bien, il faut pas moi quand je sens que je vais pas être capable d'affronter la ville, j'ai la chance, comme on le disait avant, de pouvoir travailler depuis la maison. C'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est une ville qui est fatigante. C'est une ville qui est fatigante en termes de bruit. C'est une ville qui est fatigante en termes de monde. C'est une ville qui est fatigante parce que quand on sort, je prends la ligne 13 et la ligne 13, c'est le cauchemar de tous les Parisiens. Quand vous dites que vous habitez sur la ligne 13, les gens renoncent à venir vous trouver.
Ah oui.
Parce que la ligne 13, c'est l'horreur. C'est petit, c'est mal foutu. C'est une des premières lignes de métro qui a été mise en circulation. Les gens sont collés. Ça sent pas toujours bon. Bref. Donc, oui, c'est fatigant, mais en même temps, c'est ultra stimulant. Moi, parfois, quand je reviens en Suisse, je me dis, et souvent, je reviens le week-end, et des fois, le samedi à Lausanne, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les vacances?
Où sont les gens?
Où sont les gens? Et vraiment, je sens qu'en fait, je suis pas bien inscrite dans ce rythme. En Suisse, peut-être que je l'ai jamais été et que je m'en rendais pas compte, mais quand on dit les Parisiens sont pas sympas, je pense qu'il y a un a priori aussi du Suisse romand, parce que le Parisien, c'est vrai qu'il est pas toujours sympa, mais il est surtout pas poli. En fait, il dit pas bonjour, il dit pas au revoir, il a pas les codes dont on a l'habitude, nous. Et du coup, on est parfois un peu heurté par cette manière un peu directe de s'adresser aux gens, etc. Mais le Parisien, il est comme tout le monde, c'est un humain.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
Tu es au studio ou tu es chez toi là ?
Alors là, je suis depuis la maison.
Et tu travailles souvent depuis la maison, c'est...
Ah, c'est régulier. En fait, Paris est une grande ville et je vis au nord de Paris et le studio est au sud-est. Donc, je mets à peu près 45 minutes porte à porte pour y aller. Donc, effectivement, quand il y a aussi des questions parfois d'interviews, hein, des interviews qui sont plus à faire au nord de Paris, donc je vais travailler après depuis la maison. Si c'est plus à l'est, je vais travailler depuis le studio. Ça dépend un peu des jours. En fait, je peux un peu faire un peu comme je veux. En fait, c'est une des joies du poste de correspondant.
La liberté du correspondant.
Oui.
Parle-nous un peu de ce studio, parce que alors il est au 133 de l'avenue Félix Faure, dans le 15e arrondissement. Oui. C'est pas très loin de la Tour Eiffel, hein, pour le situer à peu près dans c'est cette juste. Grande ville qu'est Paris. Il envoie défiler hein, du monde ce studio.
Oui, donc on a un studio qui permet d'accueillir à peu près 4 personnes. On a une petite cabine aussi. Moi, j'ai mon bureau donc dans ce studio. Il y a aussi le correspondant de la SRF qu'elle a avec nous, Daniel. Et puis, effectivement, il envoie défiler du monde, hein, du beau monde même, parce que, bah, comme vous le savez, sur notre antenne, on accueille parfois même des stars, on accueille des écrivains, on accueille des comédiens, des metteurs en scène. Tous ces gens viennent au studio. Et puis, alors, ce qui est très chouette, c'est qu'il faut imaginer, c'est pas du tout un studio comme à Radio France, avec des gros moyens, des immenses espaces. C'est un petit studio qui se trouve dans un appartement. Et donc, depuis que Alexandre Lemierre, le maître des lieux, donc oui. C'est lui qui habite un peu ces lieux. C'est sa grand-maman, d'ailleurs, qui tenait le studio avant lui. Donc, c'est quasiment une histoire de famille, hein, ce studio. Ça fait 30 ans qu'il appartient à la radio. C'est un petit appartement, mais qui est très chaleureux. Et les invités adorent venir nous voir. Déjà parce qu'on est sympa. Ça, c'est une première chose.
Oui.
Et puis aussi, évidemment. Et puis aussi parce que justement, ils se retrouvent dans une ambiance en fait qui est très détendue par rapport à ce dont ils ont l'habitude avec les médias français. C'est vraiment très sympa, quoi.
Souvent, les gens disent que Paris, bah, c'est sympa pour les vacances, mais c'est une ville qui fatigue aussi. Et toi, non, ça te fatigue pas. Tu le sens pas comme ça.
Alors, je pense que pour l'instant, j'ai l'énergie qui convient pour être dans cette ville. C'est effectivement Paris, c'est une ville où il faut pas être malade, il faut pas être pas bien, il faut pas moi quand je sens que je vais pas être capable d'affronter la ville, et ben j'ai la chance, comme on le disait avant, de pouvoir travailler depuis la maison. C'est vrai que c'est pas toujours simple. C'est vrai que c'est une ville qui est fatigante. C'est une ville qui est fatigante en termes de bruit. C'est une ville qui est fatigante en termes de monde. C'est une ville qui est fatigante parce que quand on sort, je prends la ligne 13, et la ligne 13, c'est le cauchemar de tous les Parisiens. Quand vous dites que vous habitez sur la ligne 13, les gens renoncent à venir vous trouver.
Ah oui.
Parce que la ligne 13, c'est l'horreur. C'est petit, c'est mal foutu. C'est une des premières lignes de métro qui a été mise en circulation. Les gens sont collés, ça sent pas toujours bon. Bref. Donc, oui, c'est fatigant, mais en même temps, c'est ultra stimulant. Moi, parfois, quand je reviens en Suisse, je me dis, et souvent, je reviens le week-end, et des fois, le samedi à Lausanne, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les vacances?
Où sont les gens?
Où sont les gens? Et vraiment, je sens qu'en fait, je suis pas bien inscrite dans ce rythme. En Suisse, peut-être que je l'ai jamais été et que je m'en rendais pas compte, mais quand on dit les Parisiens sont pas sympas, je pense qu'il y a un a priori aussi du Suisse romand, parce que le Parisien, c'est vrai qu'il est pas toujours sympa, mais il est surtout pas poli. En fait, il dit pas bonjour, il dit pas au revoir, il a pas les codes dont on a l'habitude, nous. Et du coup, on est parfois un peu heurté par cette manière un peu directe de s'adresser aux gens, etc. Mais le Parisien, il est comme tout le monde, c'est un humain.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les consignes. Vous allez écouter trois documents sonores. Document numéro 1.
Hello, c'est Jessica, et dans ce point J, on va parler d'une situation que vous avez forcément vécue si vous possédez un smartphone, ce qui me paraît assez probable. Vous discutez avec un ami ou une amie qui vous parle de sa nouvelle passion, par exemple la course en montagne, et puis le soir, vous retournez chez vous, vous ouvrez Facebook ou Instagram, et là, bam, publicité. Pourquoi ? Pour des chaussures de trail. Alors pourtant, vous n'aimez pas spécialement courir, vous avez en tout cas jamais fait de recherche à ce sujet en ligne. Ça peut être assez perturbant, mais est-ce que ça signifie que nos téléphones écoutent nos conversations ?
Document numéro 2.
Comment les élèves vivent-ils l'interdiction de téléphone portable à l'école ? Zoé Descartes, vous êtes allée voir comment ça se passe dans l'une de ces écoles pilotes.
Et oui, je me suis rendue à Genolier sur la côte. Alors jusque-là, l'établissement secondaire était plutôt permissif en matière d'utilisation du téléphone portable. Mais depuis lundi, le téléphone est éteint, rangé dans le sac 5 minutes avant le début des cours. Interdiction de le rallumer dans l'enceinte de l'école pendant les pauses et la récréation.
Et alors, c'est le drame.
Alors, il y a bien eu quelques récalcitrants au début hein, qui ont utilisé leur téléphone un petit peu en douce. Mais après une semaine, le directeur Simon Laguerre est satisfait, même un petit peu étonné par le peu de résistance et l'obéissance des élèves. Mais l'école fera un bilan plus formel la semaine prochaine.
Document numéro 3.
Les téléphones portables pourraient jouer un rôle dans la mortalité des insectes, d'après l'analyse de 190 études menées par une ONG allemande. Plus de la moitié de ces études montreraient notamment des effets négatifs sur les abeilles, les guêpes et les mouches. Ces effets vont d'une perte de la capacité d'orientation à la détérioration du matériel génétique et des larves. Cette analyse intervient au moment où l'Europe prépare l'arrivée de la 5G, la 5G très controversée, en particulier de l'avis des écologistes.
Document numéro 1, deuxième écoute.
Hello, c'est Jessica, et dans ce point J, on va parler d'une situation que vous avez forcément vécue si vous possédez un smartphone, ce qui me paraît assez probable. Vous discutez avec un ami ou une amie qui vous parle de sa nouvelle passion, par exemple la course en montagne, et puis le soir, vous retournez chez vous, vous ouvrez Facebook ou Instagram, et là, bam, publicité. Pourquoi ? Pour des chaussures de trail. Alors pourtant, vous n'aimez pas spécialement courir, vous avez en tout cas jamais fait de recherche à ce sujet en ligne. Ça peut être assez perturbant, mais est-ce que ça signifie que nos téléphones écoutent nos conversations ?
Document numéro 2, deuxième écoute.
Comment les élèves vivent-ils l'interdiction de téléphone portable à l'école ? Zoé Descartes, vous êtes allée voir comment ça se passe dans l'une de ces écoles pilotes.
Et oui, je me suis rendue à Genolier sur la côte. Alors jusque-là, l'établissement secondaire était plutôt permissif en matière d'utilisation du téléphone portable. Mais depuis lundi, le téléphone est éteint, rangé dans le sac 5 minutes avant le début des cours. Interdiction de le rallumer dans l'enceinte de l'école pendant les pauses et la récréation.
Et alors, c'est le drame.
Alors, il y a bien eu quelques récalcitrants au début hein, qui ont utilisé leur téléphone un petit peu en douce. Mais après une semaine, le directeur Simon Laguerre est satisfait, même un petit peu étonné par le peu de résistance et l'obéissance des élèves. Mais l'école fera un bilan plus formel la semaine prochaine.
Document numéro 3, deuxième écoute.
Les téléphones portables pourraient jouer un rôle dans la mortalité des insectes, d'après l'analyse de 190 études menées par une ONG allemande. Plus de la moitié de ces études montreraient notamment des effets négatifs sur les abeilles, les guêpes et les mouches. Ces effets vont d'une perte de la capacité d'orientation à la détérioration du matériel génétique et des larves. Cette analyse intervient au moment où l'Europe prépare l'arrivée de la 5G, la 5G très controversée, en particulier de l'avis des écologistes.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.